Monsieur de Camors, première partie, chapitre 4. Le domaine de Reuilly se composait de deux fermes perdues au milieu des champs et d'une maison de quelque apparence qui avait été habitée autrefois par la famille maternelle de Monsieur de Camors. Il n'avait, quant à lui, jamais vu cette propriété. Il arriva à la fin d'une belle journée d'été vers 8 heures. Une longue et sombre avenue de vieux ormes qui entrecroisaient leurs cimes épaisses conduisait à la maison d'habitation qui ne répondait pas à cette préface imposante. C'était une maigre construction du siècle dernier, simplement ornée d'un attique et d'un œil de bœuf, mais flanquée toutefois du colombier seigneurial. Elle empruntait d'ailleurs un certain air de dignité aux deux petites terrasses superposées qui la précédaient et dont les doubles escaliers s'appuyaient sur des balustrades de granit. Deux animaux en pierre qui avaient peut-être ressemblé autrefois à des lions se faisait pendant de chaque côté de la balustrade, à l'entrée de la terrasse supérieure, et se dévora de l'œil depuis 150 ans. Derrière la maison était le jardin, au milieu duquel on remarquait, sur un socle en maçonnerie, un cadran solaire mélancolique, entre quelques plates-bandes, figurant des as de cœur et aussi des as de trèfle. Plus loin, des buis taillés en forme de confessionnaux et d'autres en forme de pions d'échec. Dans le fond, faisant face à la maison, un mur en hémicycle propre aux escaliers. À droite, une haie de charmilles pareillement sculptée dans le goût de l'époque. Des niches, des tonnelles et un labyrinthe de charmilles s'enfonçant par 1000 détours dans un vallon mystérieux où l'on entendait perpétuellement un petit bruit triste. C'était une nymphe en terre cuite dont l'urne, par un procédé hydraulique inconnu, répandait nuit et jour un mince filet d'eau dans le bassin d'un petit étang bordé de vieux sapins, à l'ombre desquels il paraissait aussi noir que la chérie. La première impression de M. de Camors à la vue de cet ensemble fut souverainement pénible, et la seconde le fut encore davantage. En d'autres temps, sans doute, il trouvait quelque intérêt à rechercher au milieu de ses souvenirs du passé les traces d'une enfant qui était née là, qui avait grandi là, qui avait été sa mère, et qui peut-être avait aimé tendrement toutes ces vieilles choses. Mais son système n'admettait point les enfantillages. Il repoussa donc ses idées, si elles lui vinrent, et après un rapide coup d'œil, il demanda son dîner. Le garde et sa femme, qui depuis une trentaine d'années étaient les seuls habitants de Reuilly, avaient été prévenus la veille par un express. Ils avaient passé la journée à nettoyer la maison et à l'aérer, opération qui avait eu pour effet d'aviver tous les inconvénients qu'elle voulait prévenir et d'irriter les vieux pénates du logis dérangés dans leur sommeil, dans leur poussière et dans leur toile d'araignée. Un vague parfum de cave, de sépulcre et de vieux fiacre saisit Camors à la gorge quand il pénétra dans le salon principal où son couvert était dressé. Il y avait 2 chandelles sur la table, ce qui étonna beaucoup le jeune comte qui n'en avait jamais vu. Ces 2 chandelles scintillaient faiblement dans les ténèbres comme 2 étoiles de 15e grandeur. Monsieur de Camors en prit une avec précaution par son flambeau de fer et la considéra d'abord quelque temps avec curiosité. Puis il s'en servit pour examiner de près quelques-uns de ses ancêtres qui décoraient la muraille et qui paraissaient le regarder eux-mêmes avec une extrême surprise. Leur peinture fanée et craquelée laissait voir la toile en plus d'une place. Les uns avaient perdu le nez, les autres n'avaient plus qu'un œil, quelques-uns avaient des mains sans bras et d'autres des bras sans mains, mais tous néanmoins souriaient avec la plus grande bienveillance. Un chevalier de Saint-Louis avait reçu pendant la Révolution un coup de baïonnette dans sa croix et le trou était resté béant, mais lui-même souriait comme les autres et respirait une fleur. Monsieur de Camors, cette inspection terminée, se dit qu'il n'y avait pas un seul de ses portraits qui valut 15 francs et s'assit en soupirant devant les 2 chandelles. La femme du garde avait employé une partie de la nuit précédente à égorger la moitié de sa basse-cour et les divers produits de ce massacre comparurent successivement sur la table, noyés dans des flots de beurre. Heureusement, le général avait eu l'attention paternelle d'envoyer la veille à Reuilly un panier de provisions pour parer aux premières difficultés d'une installation imprévue. Quelques tranches de pâté et quelques verres de vin de Château Yquem aidèrent le jeune comte à combattre la mortelle tristesse que le dépaysement, la solitude, la nuit, la fumée des chandelles et la compagnie funéraire de ses aïeux commençaient à lui inspirer. Il reprit son moral, qui véritablement lui avait échappé à l'instant, et fit jaser le vieux garde qui le servait. Il essaya d'en tirer quelques éclaircissements sur l'intéressante personnalité de M. des Rameurs. Mais le garde, comme tous les paysans normands, était convaincu qu'un homme qui répond clairement à une question est un homme déshonoré. Avec toute la déférence possible, il laissa entendre à Camor qu'il n'était point dupe de l'ignorance qu'il affectait, que M. le comte savait beaucoup mieux que lui ce qu'était M. des Rameurs, ce qu'il faisait et où il demeurait, que M. le comte était son maître, et qu'à ce titre, il avait droit à tout son respect, mais qu'en même temps, M. le comte était parisien, et que, comme le disait précisément M. des Rameurs, tous les parisiens étaient des farceurs. M. de Camor, qui s'était juré de ne se fâcher jamais, ne se fâcha point. Il demanda un peu de patience à la vieille eau-de-vie du général, alluma un cigare et sortit. Il demeura quelque temps accoudé sur la petite balustrade de la terrasse qui s'étendait devant la maison, regardant devant lui. La nuit, quoique belle et pure, enveloppait d'un voile épais les vastes campagnes. Un imposant silence, étrange pour des oreilles parisiennes, régnait au loin dans les plaines et sur les collines, comme dans les vides espaces du ciel. Par intervalles seulement, un aboiement lointain s'élevait tout à coup, puis s'éteignait, et tout retombait dans la paix. M. de Camor, dont les yeux s'étaient peu à peu habitués à l'obscurité, descendit l'escalier de la terrasse et s'engagea dans la vieille avenue qui était aussi sombre et aussi solennelle qu'une cathédrale à minuit. La barrière franchie, il se trouva dans un chemin vicinal qu'il suivit à l'aventure. À proprement parler, Camor, jusqu'à cette époque de sa vie, n'avait jamais quitté Paris. Toutes les fois qu'il en était sorti, il en avait emporté avec lui le bruit, le mouvement, le train mondain et l'existence artificielle. Les courses, les chasses, les séjours au bord de la mer ou dans les villes d'eau ne lui avaient jamais fait connaître en réalité ni la province ni la campagne. Il en eut alors la vraie sensation pour la première fois, et cette sensation lui fut odieuse. À mesure qu'il s'avançait sur cette route silencieuse, sans lumière, sans maison, il lui semblait qu'il voyageait dans les sites désolés et morts d'un paysage lunaire. Cette région de la Normandie rappelle les parties les plus cultivées de la vieille Bretagne. Elle en a le caractère agreste et un peu sauvage, les pommiers et les bruyères, les couverts épais, les vertes vallées, les chemins crus, les touffus. Il y a des rêveurs qui aiment cette nature douce et sévère, même dans son repos nocturne. Ils aiment tout ce qui frappait alors l'essence indifférente de M. de Camor. Ce silence même, et cette paix des campagnes endormies. L'odeur des prairies fauchées le matin, les petites lueurs vivantes qui brillent çà et là dans l'herbe des fossés, le ruisseau invisible qui murmure dans le pré voisin, le vague mugissement d'une vache qui rêve. Et au-dessus de tout cela, le calme profond des cieux. M. de Camor marchait toujours devant lui avec une sorte de désespoir, se flattant sans doute de rencontrer à la fin le boulevard de la Madeleine. Il ne trouva que quelques chaumières de paysans éparses au bord du chemin et dont les toitures basses et moussues semblaient sortir de cette terre féconde comme une énorme végétation. Deux ou trois des habitants de cet audit respiraient l'air du soir sur le seuil de leur porte. Et Camor put distinguer dans l'ombre leurs formes lourdes et déjetées par le dur travail des champs. Ils étaient là, muets, immobiles, et ruminant dans les ténèbres, pareils à des animaux fatigués. M. de Camor, comme tous ceux que possède une idée maîtresse, avait coutume, depuis qu'il avait adopté pour règle de sa vie la religion de son père, d'y rapporter toutes ses impressions et toutes ses pensées. Il se dit en ce moment qu'il y avait sans aucun doute entre ces paysans et un civilisé comme lui une distance plus grande qu'entre ces paysans et les brutes des forêts, et cette réflexion le confirma dans le sentiment d'aristocratie farouche qui est un des termes logiques de sa doctrine. Il venait de gravir une côte assez raide, du haut de laquelle il entrevoyait d'un œil découragé un nouvel horizon de pommiers, de meules de foin et de confuses verdures, et il s'apprêtait à retourner sur ses pas, quand un incident inattendu l'arrêta sur place. Un bruit étrange avait soudain emplu ses oreilles. C'était un agréable concert de voix et d'instruments qui, dans cette solitude perdue, tenait du rêve et du miracle. La musique était bonne et même excellente. Il reconnut le prélude de Bach, arrangé par Gounod. Robinson, lorsqu'il aperçut la trace d'un pied humain sur le sable de son île, ne fut pas plus étonné que M. de Camors en découvrant au milieu de ce désert un si vif symptôme de civilisation. S'orientant sur les sons mélodieux qu'il entendait, il descendit la colline avec précaution et curiosité, comme un fils de roi à la recherche d'un palais enchanté. Le palais lui apparut à mi-côte, sous la forme d'une haute muraille qui était la partie postérieure d'une habitation adossée à la route. Une des fenêtres du premier étage était ouverte sur une des faces latérales de la maison, et c'était de là, à n'en point douter, que sortaient les flots d'harmonie mêlés à des flots de lumière. Sur le fond d'un accompagnement où quelques instruments à cordes se mariaient aux accords du piano, une voix de femme, pure et grave, s'élevait et disait la phrase mystique du jeune maître avec une expression et un goût qui lui aurait fait plaisir à lui-même. Camors était musicien et fort capable d'apprécier la savante exécution de ce morceau. Il en fut tellement frappé qu'il éprouva le désir irrésistible de voir les exécutants et particulièrement la chanteuse. Dans cette innocente intention, il escalada le revers du fossé qui bordait la route et se dressa sur le haut du talus. Se trouvant encore d'un bon nombre de mètres au-dessous de la fenêtre éclairée, il n'hésita pas à user ses talents gymnastiques pour se hisser dans les branches supérieures d'un des vieux chênes qui croissait sur la haie. Pendant qu'il opérait cette ascension, il ne se dissimulait pas tout ce qu'un pareil trait avait de léger pour un futur député de l'arrondissement, et il ne pouvait s'empêcher de sourire à la pensée d'être surpris dans cette position équivoque par le terrible dérameur ou par sa nièce. Il parvint à s'établir assez commodément sur une maîtresse branche, dans le plus épais du feuillage, à peu près en face de la fenêtre intéressante. Et, quoi qu'il en fût à une distance respectable, son regard put pénétrer dans l'intérieur du salon où le concert avait lieu. Une dizaine de personnes y étaient réunies, autant qu'il le put voir. Quelques femmes, d'âge divers, travaillait autour d'une table. Près d'elle, un jeune homme paraissait dessiner. Deux ou trois assistants étaient plongés çà et là dans des meubles confortables avec un air de recueillement. Autour du piano se présentait un groupe qui attira principalement l'attention du jeune comte. Une jolie fillette d'une douzaine d'années tenait gravement le piano. Derrière elle, un vieillard remarquable par sa haute taille, son front chauve, sa couronne de cheveux blancs et ses épais sourcils noirs, jouait du violon avec une dignité sacerdotale. Un homme d'une cinquantaine d'années en costume ecclésiastique et portant une énorme paire de lunettes à branches d'argent était assis près de lui et maniait avec une mine de profonde contention l'archet d'un violoncelle. Entre eux était la chanteuse. C'était une personne brune, pâle, mince, élégante, qui ne paraissait pas avoir dépassé 25 ans. L'ovale un peu sévère de son visage était animée par deux grands yeux noirs qui semblaient grandir encore quand elle chantait. Elle tenait une de ses mains posée sur l'épaule de l'enfant qui était assis au piano, et de cette main, elle semblait battre doucement la mesure, pressant et modérant tour à tour le zèle de l'enfant. Et cette main était charmante. Une hymne de Palestrina avait succédé au prélude de Bach. C'était un quatuor auquel deux exécutants nouveaux prêtaient leur concours. Le vieux prêtre, en cette circonstance, avait quitté son violoncelle. Il s'était mis debout, avait ôté ses lunettes, et sa voix de basse profonde complétait un ensemble des plus satisfaisants. Après le quatuor, il y eut un moment de conversation générale, pendant laquelle la chanteuse embrassa la petite pianiste qui sortit aussitôt du salon. On forma alors une sorte de cercle autour du prêtre, qui toussa, se moucha, remit ses lunettes à branches d'argent, et tira de sa soutane ce qui paraissait être un manuscrit. La chanteuse, cependant, s'était approchée de la fenêtre comme pour prendre l'air. Elle roulait tranquillement un éventail dans ses doigts et sa silhouette se dessinait dans la baie lumineuse. Elle regardait au dehors comme au hasard, tantôt vers le ciel, tantôt vers la campagne sombre. Monsieur de Camors croyait entendre son souffle pur et léger à travers les légères palpitations de l'éventail. Il se pencha un peu pour mieux voir, et ce mouvement agita le feuillage autour de lui. La jeune femme, à ce léger bruit, resta tout à coup immobile, et la pose raide et directe de sa tête indiqua clairement qu'elle avait les yeux attachés sur le chêne où M. de Camors était blotti. Il sentit que sa situation devenait grave, et ne pouvant juger en aucune façon jusqu'à quel point il était ou n'était pas invisible, il passa sous la menace de ce regard obstinément fixe une des plus cruelles minutes de sa vie. La jeune femme se retourna enfin vers l'intérieur du salon et dit d'une voix calme quelques mots qui attirèrent aussitôt près de la fenêtre deux ou trois assistants, parmi lesquels Monsieur de Camors reconnut le monsieur au violon. En ce moment de crise, il ne trouva rien de plus convenable que de garder dans sa niche de verdure le silence et l'immobilité des tombeaux. L'attitude des gens de la fenêtre ne laissa pas cependant de le rassurer. Ils promenaient leurs yeux dans l'espace avec une incertitude évidente, et il en conclut qu'il était plutôt soupçonné que découvert. Ils échangeaient entre eux des observations animées auxquelles le jeune comte prêtait sans succès une oreille attentive. Enfin, une voix forte, qui crut être celui du vieux monsieur au violon, fit entendre nettement ces trois mots. « Lâchez les chiens !» Ce renseignement parut suffisant à Monsieur de Camors. Il n'était pas poltron, il n'eût pas reculé d'un pas devant une meute de tigres, mais il eût fait 100 lieues à pied pour échapper à l'ombre du ridicule. Il profita d'une heureuse éclaircie où la surveillance dont il était l'objet parut moins active, se laissa glisser à bas de son arbre, sauta dans le champ de l'autre côté de la haie et rentra dans le chemin un peu plus loin en escaladant la barrière. Il reprit alors la démarche paisible d'un promeneur qui se sent dans son droit. Ce fut à peine s'il hâta le pas lorsqu'un instant plus tard, il entendit au loin quelques aboiements tumultueux qui lui prouvaient d'ailleurs que sa retraite avait été vraiment opportune. Il retrouva posté sur le seuil d'une chaumière un des paysans qu'il avait vu à son premier passage et s'arrêta devant lui. « Mon ami, lui dit-il, à qui est donc cette grande maison qui tourne le dos à la route là-bas et où l'on fait de la musique ?»« Vous le savez peut-être bien, dit l'homme. » »« Si je le savais, mon ami, reprit Camors, je ne vous le demanderai pas. » Le paysan ne répondit rien. Il avait sa femme près de lui. Monsieur de Camors, ayant remarqué que les femmes avaient généralement, dans toutes les classes de la société, plus d'esprit et de bonté que leurs maris, essaya de s'adresser à elles. « Ma bonne dame, je suis étranger, comme vous voyez. À qui donc est cette maison? Est-ce à Monsieur des Rameurs, par hasard ?»« Non, non, dit la femme, vraiment non. Monsieur des Rameurs, c'est plus loin. »« Ah, et qui donc demeure là ?»« Là, c'est Monsieur de Tecle, le comte de Tecle, bien sûr. » Ah, et dites-moi, il n'est pas seul. Il y a une dame chez lui, celle qui chante. Sa sœur, sa femme, quoi? Sa belle-fille, Madame de Tecle donc, Madame Élise, quoi. Ah, je vous remercie, ma chère femme. Avez-vous des enfants? Voilà pour leur acheter des sabots. Il laissa tomber une petite pièce d'or sur la jupe de l'obligeante paysanne et s'éloigna. La route au retour lui parut moins longue qu'en venant et moins triste aussi. Il chantonnait chemin faisant le prélude de Bach. La lune s'était levée et le paysage y avait gagné. Bref, quand M. de Camors aperçut au bout de l'avenue toujours sombre son petit château s'élevant au-dessus de ses deux terrasses et baigné dans une lumière blanche, il lui trouva un aspect aimable et réjouissant. Toutefois, lorsqu'il vint à s'enfoncer dans la vieille alcôve de ses parents maternels, et à respirer l'âcre odeur de papier moisi et de boiseries vermoulues qui en formaient l'atmosphère, il eut grand besoin de se souvenir qu'il existait dans les environs une jeune dame qui avait un joli visage, une jolie voix et un joli nom. Le lendemain matin, le comte de Camors, après s'être plongé tout vif dans une cuvette d'eau froide, au profond étonnement du vieux garde et de sa femme, se fit conduire à ses deux fermes. Il en trouva les bâtiments fort semblables à des habitations de castors, quoique moins confortables. Mais il fut surpris d'entendre ces fermiers raisonner dans leur patois sur tous les procédés de culture et d'élevage comme des gens qui n'étaient étrangers à aucun des perfectionnements modernes de l'industrie. Le nom de Monsieur des Rameurs intervenait fréquemment dans leurs discours, à l'appui de leurs théories et de leur expérience personnelle. Telle charrue était employée de préférence par Monsieur des Rameurs, telle machine à vanner était de son invention, telle race de ces animaux avait été introduite dans le pays par ses soins. Monsieur de Rameur faisait ceci, Monsieur des Rameurs faisait cela, il faisait comme lui et s'en trouvait bien. Monsieur de Camors comprit que le général n'avait pas exagéré l'importance locale de ce personnage, et que décidément, il fallait compter avec lui. Il résolut d'aller lui faire visite dans la journée. En attendant, il alla déjeuner. Ce devoir accompli envers lui-même, le jeune comte s'accouda comme la veille sur la balustrade de sa ferme en face de son avenue et se mit à fumer. Il était alors midi, et c'était à peine si le silence et la solitude lui semblaient moins complets, moins sinistres que la veille en pleine nuit. Quelques caquetages de poules, quelques bourdonnements d'abeilles, le faible tintement d'une cloche dans le lointain, et c'était tout. Monsieur de Camors songeait à la terrasse de son cercle, au bruit de la foule, au roulement des omnibus, aux affiches de spectacles, aux petits kiosques où l'on vend des journaux, à l'odeur de l'asphalte échauffé. Et le moindre de ces enchantements prenait dans sa pensée une douceur infinie. Les habitants de Paris ont un avantage dont ils ne se rendent pas compte, si ce n'est, bien entendu, quand il leur manque. C'est qu'une bonne moitié de leur existence se trouve remplie sans qu'ils s'en mêlent. La puissante vitalité qui les enveloppe sans cesse les dispense, à un degré dont ils ne se doutent pas, du soin de subvenir personnellement à leur entretien intellectuel. Le simple bruit matériel, qui forme autour d'eux une sorte de basse continue, comble au besoin les lacunes de leur pensée et n'y laisse jamais le sentiment désagréable du vide. Il n'est pas un Parisien qui n'ait la bonté de croire qu'il fait tout le bruit qu'il entend, qu'il a écrit tous les livres qu'il lit, rédigé tous les journaux dont il déjeune, composé toutes les pièces dont il soupe et inventé tous les bons mots qu'il répète. Cette flatteuse illusion s'évanouit aussitôt qu'un hasard le transporte à quelques kilomètres de la rue Vivienne. Il lui arrive, en cette épreuve, une chose qui le confond. Il s'ennuie effroyablement. Peut-être soupçonne-t-il alors, dans le secret de son âme détendue et affaissée, qu'il est une faible créature mortelle. Mais non, il rentre à Paris. Il se frotte de nouveau à l'électricité collective, il se retrouve, il a du ressort, il est actif, affairé, spirituel, et il reconnaît à sa pleine satisfaction qu'il n'a pas cessé d'être une créature d'élite. Momentanément dégradé, il est vrai, par le contact des êtres inférieurs qui peuplent les départements. Monsieur de Camors avait en lui-même, autant que personne au monde, de quoi vaincre l'ennui. Mais en ses premières heures de vie provinciale, privé de ses relations, de ses chevaux, de ses livres, éloigné de toutes ses habitudes et de tous ses goûts, il devait sentir, et il sentait, le poids du temps avec une intensité inconnue. Ce fut donc pour lui une délicieuse émotion que d'entendre tout à coup retentir sur le sol certains piétinements relevés qui annonçaient clairement à son oreille exercée l'approche de quelques chevaux de prix. L'instant d'après, il aperçut sous l'arcade sombre de son avenue deux dames à cheval qui s'avançaient directement vers son humble château et qui étaient suivies à une distance convenable par un domestique avec une cocarde noire. À ce charmant spectacle, monsieur de Camors, quoique fort surpris, rassembla ses plus belles façons de gentilhomme et s'apprêta même à descendre l'escalier de sa terrasse. Mais les deux dames, à sa vue, parurent éprouver une surprise au moins égale à la sienne. Elles firent un brusque temps d'arrêt et semblèrent conférer entre elles. Puis, prenant leur parti, elles continuèrent leur route, traversèrent la cour qui était au bas des terrasses et disparurent dans la direction du petit étang qui ressemblait à la chérie. Comme elles passaient au pied de la balustrade, Monsieur de Camors les salua et elles lui rendirent son salut par un léger tin de tête. Malgré le voile qui flottait à leur chapeau, le comte se crut assuré de reconnaître la chanteuse aux yeux noirs et la petite pianiste. Après quelques minutes, il appela le vieux garde. « Monsieur Léonard, lui dit-il, est-ce que c'est public, ma cour ?»« La cour de monsieur le comte n'est pas publique, bien certainement, dit monsieur Léonard. » « Eh bien, mais alors, que signifient ces deux dames qui viennent de passer là ?»« Mon Dieu, monsieur le comte, il y a si longtemps que les maîtres n'étaient venus à Reuilly. Ces dames ne croyaient pas faire de mal en se promenant dans les bois de monsieur le comte. Elles s'arrêtaient même quelquefois au château, et ma femme leur donnait du lait. Mais je leur dirai que ça gêne, monsieur le comte. »« Mais pour le moins du monde, monsieur Léonard, pourquoi voulez-vous que cela me gêne ? Je m'informe simplement. Et qui sont ces dames ?»« Oh, des dames très bien, monsieur le comte. Madame de Tecle et sa fille, mademoiselle Marie. » « Et le mari de cette dame, monsieur de Tecle, Il ne se promène donc pas, lui? Ah, vrai Dieu, non! Il ne se promène pas, dit le vieux garde avec un fin sourire. Il y a longtemps qu'il est chez les morts, le pauvre homme. Comme monsieur le comte le sait bien. Admettons que je le sache, monsieur Léonard, mais qu'il soit bien entendu que je ne veux pas déranger les habitudes de ces dames, n'est-ce pas? Monsieur Léonard parut satisfait d'être soulagé d'une mission désagréable, et monsieur de Camors ayant réfléchi tout à coup que son séjour à Reuilly se prolongerait quelque temps suivant toute vraisemblance, rentra dans le château, en examina les différentes pièces, et s'occupa, de concert avec le garde, à arrêter le plan des réparations les plus urgentes. La petite ville de L n'était qu'à 2 lieues. Elle offrait des ressources suffisantes, et M. Léonard dut s'y rendre le jour même et y prendre langue avec un architecte. En même temps, M. de Camors se dirigeait de sa personne vers l'habitation de M. Desrameurs, sur laquelle il avait fini par obtenir des indications assez exactes. Il suivit le même chemin que la veille, passa devant le bâtiment d'aspect monastique où respirait Madame de Tecle, donna un coup d'œil au vieux chêne qui lui avait servi d'observatoire à lui-même et découvrit, environ 1 kilomètre plus loin, le petit édifice à tourelles qu'il cherchait. On pouvait le comparer à ces résidences idéales qui ont fait rêver tous nos lecteurs dans leur enfance heureuse, quand ils lisaient au-dessous d'une gravure en taille douce cette phrase attrayante. Le château de M. de Valmont était agréablement situé sur le sommet d'une riante colline. C'était une aimable perspective de prairies en pente, vertes comme l'émeraude, et même davantage, et semées çà et là de gros bouquets d'arbres. Puis des parterres ornés de grands vases, des petits ponts blancs jetés sur des ruisseaux, des vaches et des moutons retirés à l'ombre, et qui auraient pu figurer dans un opéra comique, tant le poil des vaches était lustré, et tant la laine des moutons était blanche et mousseuse. Monsieur de Camors franchit une grille, prit le premier chemin qui se présenta et gagna le haut du coteau entre 2 massifs d'arbustes et de fleurs. Un vieux domestique dormait sur un banc devant la porte et souriait en rêve à toutes ces jolies choses. Monsieur de Camors l'éveilla et demanda le maître du logis. On l'introduisit aussitôt à travers un vestibule garni de bois de serre dans un salon fort propre où une jeune dame en jupe courte et en petit chapeau rond était occupée à piquer des rameaux de verdure dans des vases de chine. Elle se retourna au bruit de la porte. C'était encore Madame de Tecle. Pendant que M. de Camors la saluait avec un air d'étonnement et d'incertitude, elle le regardait fixement et très tranquillement avec ses grands yeux. « Pardon, madame, dit-il en hésitant, j'avais demandé M. Desrameurs. Il est à la ferme, monsieur, mais il ne tardera pas à rentrer, si vous voulez prendre la peine de l'attendre. » Elle lui montra un siège et s'assit elle-même en repoussant de son très petit pied les branchages qui jonchaient le parquet. « Mais, madame, reprit M. de Camors, ne pourrais-je, en l'absence de M. Desrameurs, avoir l'honneur de parler à Madame sa nièce ?» Une ombre de sourire passa sur le visage brun, sévère et charmant de Madame de Tecle. « Sa nièce? Mais c'est moi, dit-elle. « Oh, madame, pardon, mais on m'avait dit, je croyais... Je m'attendais à trouver une personne âgée et... » Il allait dire « respectable », mais il s'arrêta et ajouta simplement « Et je vois que j'étais dans l'erreur. » Madame de Tecle parut être complètement insensible à cette politesse. « Puis-je savoir, monsieur, dit-elle, qui j'ai l'honneur de recevoir ? Monsieur de Camors. » « Ah, mon Dieu ! Mais alors, monsieur, j'ai des excuses à vous présenter. C'est vous, probablement, que nous avons vu ce matin. » Nous avons été bien indiscrètes, ma fille et moi, mais nous ignorions votre arrivée et Reuilly était abandonnée depuis si longtemps. Vous voudrez bien, j'espère, madame, vous et mademoiselle votre fille, ne rien changer à vos habitudes de promenade. Madame de Tecle fit un petit geste de la main, comme pour dire que certainement elle était reconnaissante de cette invitation, mais que certainement aussi elle n'en abuserait pas. Puis il y eut un silence qui se prolongea au point d'embarrasser monsieur de Camors. Ses yeux errants vinrent à rencontrer le piano, et il eut sur les lèvres cette phrase originale. « Vous êtes musicienne, madame ?» Mais il se rappela son arbre, craignit de se trahir par cette allusion, et se tut. « Vous venez de Paris, monsieur, reprit madame de Tecle. « Non, madame, je viens de passer quelques semaines chez le général de Canvallon, qui a l'honneur d'être de vos amis, je crois, et qui m'a encouragée à me présenter à vous. « Nous serons très heureux, monsieur. Quel excellent homme, n'est-ce pas ? Excellent, oui, madame. Il y eut à nouveau silence. Mon Dieu, monsieur, dit madame de Tecle, si une promenade au soleil ne vous faisait pas peur, nous irions au-devant de mon oncle. Nous le rencontrerons certainement. Monsieur de Camors s'inclina. Madame de Tecle s'était levée et avait sonné. Mademoiselle Marie était là, dit-elle au domestique. Priez-la de mettre son chapeau et de venir. Mademoiselle Marie arriva l'instant d'après. Elle jeta sur l'étranger le franc regard d'un enfant curieux, le salua légèrement, et tous trois sortirent du salon par une porte qui ouvrait de plein pied sur le parc. De ce côté du château, comme devant la façade, c'était une succession de coteaux et de vallons gazonnés, de bosquets et de clairières, de petits ponts blancs, de vaches luisantes et de moutons frisés, s'étendant à perte de vue. Madame de Tecle, tout en répondant poliment aux exclamations courtoises de Monsieur de Camors, s'acheminait d'un pas rapide et léger, et ses petites bottes de fée laissaient leurs deux empreintes délicates, comme esquissées, sur le sable fin des sentiers. Elle marchait avec une grâce inconcevable, sans le vouloir et sans le savoir. Elle avait une allure relevée, souple, élastique, et d'une élégance ondoyante qu'eût semblé coquette si on ne l'eût sentie parfaitement naturelle. Arrivée devant le mur qui fermait la partie droite du parc, elle ouvrit une porte et l'on se trouva à l'entrée d'un chemin très étroit qui traversait un immense champ plein de blé mûr. Madame de Tecle continua sa marche, suivie par Mademoiselle Marie, que suivait Monsieur de Camors. Mademoiselle Marie s'était montrée jusque-là fort sage, mais en voyant tous ces beaux épis d'or entremêlés de marguerites blanches, de coquelicots rouges et de bleuets, et en entendant le concert délicieux que des myriades de mouches bleues, vertes, jaunes et mordorées faisaient au milieu de ces merveilles, Mademoiselle Marie s'exalta et perdit quelque chose de son excellente tenue. Elle s'arrêtait de minute en minute pour cueillir une marguerite ou un coquelicot. À chaque station, il est vrai, elle se retournait vers Camors et lui disait « Pardon, monsieur !» Mais n'importe, sa mère en souffrait. « Voyons, Marie, disait-elle, voyons donc !» Enfin, comme on passait tout près d'un des pommiers qui était clairsemé au milieu du blé, l'enfant aperçut une branche verte surmontée d'une pomme encore plus verte et grosse comme le bout de son doigt. Cette tentation fut irrésistible. « Pardon, monsieur, dit-elle. » Et elle s'enfonça dans le blé pour atteindre le pommier et, si Dieu le permettait, la petite pomme. Mais ce fut Madame de Tecle qui ne le permit pas. « Marie, dit-elle vivement dans les blés, mon enfant, êtes-vous folle ?» Marie rentra la hâte dans le sentier, mais elle ne put renoncer à sa terrible envie et regardant Monsieur de Camors d'un œil suppliant. « Monsieur, lui dit-elle en lui montrant la branche, je vous prie, cela ferait si bien dans mon bouquet cette pomme. » Monsieur de Camors n'eut qu'à se pencher un peu et à allonger le bras pour détacher de l'arbre la branche et la pomme. « Merci bien, dit tranquillement l'enfant. Puis elle joignit la tige du pommier à son bouquet, planta le tout dans le ruban de son chapeau et se remit fièrement en marche après un gros soupir de satisfaction. Comme il s'approchait d'une barrière qui s'ouvrait à l'extrémité du champ, Madame de Tecle se retourna tout à coup. « Mon oncle, monsieur, dit-elle. » Monsieur de Camors leva la tête et aperçut un vieillard de haute taille qui s'était arrêté de l'autre côté de la barrière et qui le regardait, la main posée au-dessus de ses yeux en forme d'abat-jour. Ses jambes robustes étaient sanglées dans des guêtres de cuir fauve à boucles d'acier. Il portait un large vêtement de velours marron et un chapeau de feutre mou. À ses cheveux blancs et à ses gros sourcils noirs, Camors reconnut aussitôt le vieux monsieur joueur de violon. « Mon oncle, dit Madame de Tecle en montrant le jeune comte du geste, monsieur de Camors. « Monsieur de Camors, répéta le vieillard d'une voix remarquablement forte et pleine. « Monsieur, soyez le bienvenu. » Il ouvrit la barrière et tendant au jeune homme sa main brune et velue. « Monsieur, poursuivit-il, j'ai beaucoup connu Madame votre mère et je suis ravi de voir son fils chez moi. C'était une aimable personne que votre mère, monsieur, et qui certainement méritait... » Le vieillard hésita et termina sa phrase par un « hem » sonore qui retentit dans sa large poitrine comme sous une voûte d'église. Il prit la lettre de Monsieur de Canvallon que Camors lui présentait et, la tenant développée à longue distance de ses yeux, il se mit à la lire sous l'ombre de la haie voisine. Le général avait prévenu le jeune comte qu'il ne croyait pas politique de révéler dès l'abord à Monsieur des Rameurs les projets concertés entre eux. Monsieur des Rameurs ne trouva donc dans la lettre qu'une chaude recommandation en faveur de M. de Camors et plus bas, en post-scriptum, la nouvelle du mariage du général.
« Comment diable ? » s'écria M. des Rameurs. « Savez-vous cela, ma nièce ? Quand va l'on se marier ?»
Les histoires de mariage ont le privilège d'éveiller l'intérêt particulier des dames. Madame de Tecle se rapprocha avec curiosité et Mademoiselle Marie elle-même prêta l'oreille.
« Comment, mon oncle ? Le général, êtes-vous sûr ?
Par Dieu, sans doute, j'en suis sûr, puisqu'il me le dit.
Connaissez-vous sa fiancée, monsieur de Camors ?
Mademoiselle de Luc d'Estrelles est ma cousine, monsieur.
Ah, fort bien, monsieur. Et c'est une personne d'un certain âge, je suppose.
Elle a 25 ans, monsieur.
Monsieur des Rameurs fit entendre de nouveau un de ces hem puissants qui lui étaient familiers.
Et peut-on vous demander, monsieur, sans indiscrétion, reprit-il, si elle est douée de quelque agrément physique ?
Elle est d'une rare beauté.
Hem. Fort bien, monsieur. Je trouverai le général un peu âgé pour elle.
Mais quoi ? Chacun se connaît, monsieur, chacun se connaît.
Hem. Ma chère Élise, quand vous voudrez, nous vous suivons.
Pardon, monsieur le comte, si je vous reçois dans cet appareil rustique, mais je suis un laboureur, agricola, et un pasteur, un simple gardien des troupeaux, custos gregis, comme dit le poète.
Marchez donc devant moi, monsieur, je vous en prie.
Marie, respectez mes blés, mon enfant.
Et pouvons-nous espérer, monsieur de Camors, que vous avez l'heureuse pensée de quitter la grande Babylone et de vous installer dans votre propriété rurale ?
Ce serait d'un bon exemple, monsieur, d'un excellent exemple, car aujourd'hui, plus que jamais malheureusement, on peut dire avec le poète « Non nullus aratro dignus onos, squalent abductis, arva colonis, et... »
Et ma foi, j'oublie le reste. Pauvre mémoire. Ah, monsieur, ne vieillissez pas.
Et curve rigidum falces conflantur inensem, dit monsieur de Camors, achevant la citation interrompue.
Quoi, monsieur ? Vous citez Virgile ? Vous lisez les anciens ? J'en suis charmé, sincèrement charmé.
Ce n'est point le défaut de la génération nouvelle. Les ignorants font courir le bruit qu'il est de mauvais goût de citer les classiques.
Ce n'est pas mon avis, monsieur, pas le moins du monde.
Nos pères citaient volontiers parce qu'ils savaient.
Quant à Virgile, monsieur, c'est mon poète.
Non pas que j'approuve tous ses procédés de culture. Avec tout le respect que je lui dois, il y a beaucoup à dire à son œuvre de ce côté-là, et ses méthodes d'élevage en particulier sont tout à fait insuffisantes. Mais d'ailleurs, il est divin.
Eh bien, monsieur de Camors, vous voyez mon petit domaine, mea paupera regna, la retraite du sage. C'est là que je vis, et que je suis heureux, comme un patriarche, comme un vieux berger de l'âge d'or, aimé de mes voisins, ce qui n'est pas facile, et vénérant les dieux, ce qui l'est davantage.
Oui, monsieur, et puis, vous aimez Virgile, vous m'excuserez encore une fois, c'est pour moi qu'il a dit
« Fortunate senex hic inter flumina nota, et fontes sacros frigus captabis opacum. »
Et aussi, monsieur de Camors,
« Fortunatus et ille deus qui novit agrestes, panaque silvanumque senem. »
Nymphasque sorores, dit Camors en souriant, et en désignant d'un léger signe de tête Madame de Tecle et sa fille qui le précédaient.
« Fort bien, fort à propos. C'est la vérité pure, dit gaiement Monsieur des Rameurs. Avez-vous entendu, ma nièce ? » ?»«
Oui, mon oncle. » »«
Avez-vous compris, ma nièce ? » ?»«
Non, mon oncle. »
Le vieillard se mit à rire de tout son cœur.
« Je ne vous crois pas, ma chère, je ne vous crois pas. N'en croyez rien, Monsieur de Camors. Les femmes ont le don de comprendre les compliments dans toutes les langues. »
Et cet entretien les avait conduits jusqu'au château. On s'assit sur un banc, devant la porte du salon, pour jouir du point de vue. Monsieur de Camors loua avec goût le dessin et la bonne tenue du parc. Il accepta une invitation à dîner pour la semaine suivante et se retira discrètement, se flattant d'avoir fait, dès son début, quelques progrès dans l'estime de Monsieur des Rameurs. Mais regrettant de n'en avoir fait aucun, suivant toute apparence, dans la sympathie de sa nièce au pied léger. C'était tout le contraire.
Ce jeune homme, dit Monsieur des Rameurs, dès qu'il se trouva seul avec Madame de Tecle, ce jeune homme a quelques teintures des anciens, et c'est quelque chose. Mais il ressemble terriblement à son père, qui était vicieux comme le péché. Il a bien dans le sourire et dans les yeux quelques traits de son adorable mère, mais en définitive, ma chère Élise, c'est tout le portrait de son détestable père, dont il a d'ailleurs, dit-on, les principes et les mœurs.
Et qui dit cela, mon oncle ? Mais le bruit public, ma nièce.
Le bruit public, mon oncle, se trompe quelquefois, et il exagère toujours.
Moi, je le trouve bien, ce jeune homme. Il est très poli et très distingué.
Voilà, voilà, parce qu'il vous a comparé aux nymphes de la fable, ma nièce.
S'il m'a comparé aux nymphes de la fable, il a eu tort, mais il ne m'a pas adressé en français une seule parole qui ne fût du meilleur ton.
Attendons avant de le condamner, que nous ayons pu le juger nous-mêmes, mon oncle, voulez-vous?
C'est une habitude que vous m'avez toujours recommandée, vous savez.
Vous ne pouvez pas disconvenir, ma nièce, reprit le vieillard avec un peu d'humeur, que ce jeune homme n'exhale un parfum parisien des plus marqués et des plus désagréables. Trop poli, trop contenu, pas l'ombre d'enthousiasme, pas de jeunesse, enfin. Il ne rit pas. J'aime que quelqu'un soit de son âge. J'aime qu'un jeune homme rie à faire craquer son gilet.
Comment voulez-vous qu'il rie à faire craquer son gilet, mon oncle, quand son père est mort si récemment d'une manière tragique et quand lui-même est à demi ruiné, dit-on?
Eh bien, soit. La vérité est que vous avez raison. Et j'abjure mes préventions contre ce jeune homme. S'il est à demi ruiné, je lui offrirai mes conseils et ma bourse au besoin. En souvenir de sa mère, qui vous ressemblait, Élise, par parenthèse. Et c'est ainsi que finissent toujours nos querelles, méchant enfant. Je crie, je me passionne, je m'emporte comme un tartare.
Vous faites parler votre douceur et votre bon sens, ma chère petite. Et le tigre est un agneau. Et tous les malheureux qui vous approchent subissent de même votre charme perfide.
Et c'est pourquoi mon vieux La Fontaine a dit de vous:
sur différentes fleurs l'abeille se repose et fait du miel sur toute chose.